Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Cette histoire qui débute dans l'entre-deux-guerres, en 1936, c'est l'histoire d'une folie. Le projet fou d'un homme qui s'appelle Louis Didier. Un marchand de voitures de Lille. Il a 34 ans, il est franc-maçon, mais il est surtout un fondu d'ésotérisme. Un cinglé d'ésotérisme même. Doublé d'un immense pervers manipulateur. Sa grande idée, c'est que le monde s'est perdu depuis des temps très anciens, que l'obscurité s'est répandue sur la Terre et qu'il faut un être supérieur pour faire revenir la lumière. Et cet être supérieur, c'est lui qui va le choisir, c'est lui qui va le faire naître, c'est lui qui va l'élever, c'est lui qui va le révéler au monde. Je vous préviens, c'est du très lourd. Dans un premier temps, Louis Didier entreprend de trouver une génitrice, une sorte de mère porteuse qui enfantera de l'élu. Et il la trouve dans une famille de 8 enfants. Le père est un mineur de fonds, il est très pauvre et Louis Didier lui propose de le délester de la petite dernière, une petite blonde de 6 ans, Jeannine. Il promet au pauvre homme de l'élever dans les meilleures conditions, à une condition, c'est que le père renonce à elle. Pour toujours. Marché conclu. Le pauvre père renonce à la petite Jeannine, qui a 6 ans donc, et qui débarque à Lille chez son nouveau papa, lequel l'envoie tout de suite en pension pour qu'elle reçoive une éducation solide pour accomplir sa mission. Il a tout son temps, Louis Didier. Apprends, ma petite, apprends, cultive-toi, tu en auras besoin pour la mission divine que je vais te confier. Car la petite est au courant depuis le début. Du projet de son père adoptif, de la folie de son père adoptif. Il a tout prévu. C'est elle, Jeannine, qui mettra au monde l'élu. Pas tout de suite, elle a 6 ans, mais quand elle sera majeure. C'est elle qui mettra au monde celle qui viendra sauver le monde. Au passage, le géniteur, ça sera lui. De papa adoptif, il va devenir le mari de Jeannine. Et elle sait d'avance comment l'enfant s'appellera. Ce sera une fille d'abord, et elle s'appellera Maude. Et cerise sur le gâteau, Jeannine connaît même d'avance le jour de sa naissance. C'est dingue, mais c'est comme ça. Louis Didier l'a décidé, Maude, celle qui sauvera le monde, naîtra le 23 novembre 1957. Pas le 22, pas le 24, le 23 novembre. Comme prévu, le 23 novembre 57, elle accouche d'une petite Maude qui est aussi blonde qu'elle. Les 3 premières années, elle connaît l'enfance de tous les bébés, babillage et biberon. Mais ça ne va pas durer. Quand Maude a 3 ans, l'autre fou de Louis Didier décide de tout quitter. Lille et sa concession automobile pour se consacrer à plein temps à son projet de grand malade. Éduquer Maude, éduquer l'élu. Il achète une grande propriété entre Lille et Dunkerque à Bavinchauve, près de Saint-Omer. L'éducation, l'édification de Maude va pouvoir commencer. Elle n'a pas encore 4 ans quand elle arrive au domaine et que les portes se referme derrière elle. Car c'est ça le plan de Louis Didier. Protéger Maude du monde extérieur. Car c'est bien connu, la société humaine grouille de gens corrompus. Et à Maude on dit toute la journée, tu es en danger, des méchants vont essayer de t'enlever et de te tuer. C'est que ça s'est déjà fait. Charles Lindbergh, l'aviateur, lui aussi c'était un franc-maçon, c'était un grand initié comme Louis Didier. Et son fils a été kidnappé et assassiné. Et le fils Peugeot, pareil. Voilà pourquoi, ma petite Maude, tu ne dois jamais sortir du domaine. Jamais, tu entends. Jamais. Et la consigne est claire. Quand la petite est dans les pièces qui donnent sur la rue, il faut toujours tirer les rideaux avant d'allumer la lumière pour ne pas être la cible de tireurs embusqués. De toute façon, l'école, c'est au 2e étage. 10 heures par jour, c'est Jeannine, la mère, qui joue les professeurs. C'est pour ça qu'il lui a fait faire des études. Et lui, le père, il va s'occuper du reste, de son éducation physique et mentale. Il va la préparer à affronter les forces du mal. Maud doit devenir plus forte que lui. Elle doit notamment devenir insensible à la douleur, au froid, à la peur, à l'angoisse, à la honte, au dégoût, à la fatigue, à la solitude, à la claustration, aux brimades et à l'injustice. Concrètement, ça donne ça. La chambre de Maud n'est pas chauffée. Son lit est dur. Ses draps sentent le moisi. La toilette, c'est l'eau froide. Et pas plus d'une fois par semaine. À part ça, le programme, c'est 8 heures de cours, 2 heures de devoirs, auxquels s'ajoutent le solfège et le piano. Ça, le père l'a tiré de l'expérience des Juifs rescapés des camps, figurez-vous. Les musiciens d'Auschwitz s'en sont sortis. Donc, pour s'en sortir, il faut qu'elle sache jouer de tout. Du piano maintenant, mais plus tard de l'accordéon, de la guitare, de la clarinette, du violon, du saxophone et de la trompette. Et après tout ça, il y a les animaux à nourrir et le jardin à entretenir. Maud ne regagne sa chambre qu'à 23 heures, à 5 ans. Mais le père est très déçu. Ah, il est très déçu. La gamine ne cherche qu'à s'amuser. Alors le jour de son anniversaire, pour ses 6 ans, il lui apprend à ne pas fêter son anniversaire. La fête, c'est une dépense d'énergie. La fête, ça détourne les gens du combat qu'est la vie. Donc, le jour de ses 6 ans, Maud devra travailler jusqu'à 2 heures du matin. Ah, il faut aussi qu'elle apprenne à nager. C'est indispensable de savoir nager si on veut sauter d'un pont ou d'un bateau. Le père creuse donc un grand trou dans le jardin et il appelle ça la piscine. En fait, ça n'est qu'un trou boueux qui se remplit avec de l'eau de pluie, glacée. On y jette Maud, sans aucun apprentissage préalable. Elle se débat, elle boit la tasse et sa mère lui tend une perche juste avant la noyade. Pour le vélo, même approche. Les petits trous, c'est pour les chouchottes. Maud apprendra sur un grand vélo. Et quand elle tombe, il la désinfecte au whisky. Et prière de ne pas exprimer de douleur, c'est vulgaire. Le vertige aussi, c'est vulgaire. Un jour, le père emmène Maud au-dessus des falaises, face à l'Angleterre. Une entorse à la règle. Pour une fois, les voilà dehors, hors du domaine. La petite est effrayée à l'idée de s'approcher du bord. Alors les parents la saisissent et la balancent au-dessus du vide. Et l'enfant hurle et se débat de terreur. Puisqu'elle s'est conduite comme une poule mouillée, eh bien, on ne lui adressera plus la parole. Pendant 3 semaines. C'est dingue comme cette gamine est capricieuse. L'emploi du temps de Maud est inscrit dans un cahier. Le matin, debout 6 heures. C'est elle qui réveille sa mère à 6h10. À 6h20, 30 minutes de solfège, suivi de 20 minutes de marche rapide dans le jardin. Et pas trop couverte, hein, surtout en hiver. À 7h10, Maud monte dans la classe au deuxième étage pour réviser ses leçons pendant 40 minutes. À 7h58, pas 59, pas 57, 58, elle doit aller tous les jours dans la chambre de sa mère pour que celle-ci lui donne l'ordre de réveiller son père. À 8h précises. Et là, pas d'improvisation. Maud doit d'abord frapper à la porte, attendre qu'il lui réponde, entrer, ouvrir doucement les doubles rideaux, allumer la lampe de son cabinet de toilette, puis allumer la lampe de chevet. À ce moment-là, son père s'assoit sur le lit. Elle doit alors lui présenter le pot de chambre dans lequel il urine, devant elle. Ensuite, elle doit vider le pot et revenir pour arranger ses oreillers et le préparer à recevoir son petit déjeuner. Après quoi, avec sa mère, elle aide le grand sage à s'habiller. Maud a le privilège de lui enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Une dinguerie intégrale. À 8h40 précise, elle monte au deuxième étage pour assister à la classe du matin, dispensée par sa mère bien sûr, jusqu'à 11h. Ensuite, une heure d'allemand avec son père. Et attention, elle a intérêt à savoir par cœur les textes des grands poètes allemands. Sauf que le père ne parle pas allemand. C'est du charabia. À midi, le déjeuner dure 15 petites minutes. Et de midi et quart jusqu'à 22 heures, Maud suit les cours de sa mère, travaille ses instruments de musique, s'entraîne à la gymnastique, dîne en 15 minutes et va nourrir les animaux. Et à 22 heures, la mère et la fille se retrouvent dans la chambre du père pour le service du soir. Déshabillage, pot de chambre, pipi, couchage. Et interdiction de se retirer de la chambre tant que la respiration de l'autre dingo ne s'est pas stabilisée. Et là, enfin, Maud peut aller dans sa chambre. Et c'est comme ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec parfois des variantes. Par exemple, l'été, quand Maud doit aider les ouvriers à faire des travaux au domaine, elle est alors initiée au noble métier de maçon. Il y a aussi le test de courage, la nuit, et si possible, les nuits sans lune. Quand le père vient la réveiller, Maud a 30 secondes pour s'habiller et sortir dans le jardin. Et là, dans le noir, en comptant les pas parce qu'elle ne voit rien, elle doit effectuer un grand parcours en allumant à chaque étape des points lumineux pour que son père, qui lui est resté au chaud à la fenêtre, puisse suivre son parcours. Heureusement pour Maud, il y a les animaux. Linda, la chienne, Arthur, le cheval, et le caneton Pitou, elle leur raconte tout son chagrin. Et eux, ils l'écoutent. Et le chien lui lèche le bout du nez. Et il lui donne un peu de tendresse. Alors quand Arthur, le cheval, vient à mourir, Maud est très triste. Toute la nuit qui suit, la chienne Linda hurle à la mort. Il y a plus d'humanité chez ces animaux-là que chez son père. Beaucoup plus d'humanité. Pour mettre fin à ces insupportables débordements d'émotions, le père décide de construire à l'endroit même où repose le cheval Arthur un gymnase. Car maintenant, la petite va devoir apprendre les agrès, le cheval d'arçon, les barres parallèles, la poutre et les anneaux. Un jour dans le jardin, Maud accroche la clôture et prend une décharge électrique. Eh oui, bien sûr, la clôture est électrifiée pour se protéger de ce monde extérieur si hostile. Alors elle pousse un petit cri, la mauviette. Il lui ordonne de saisir la clôture à pleine main et surtout sans rien montrer de ta douleur. Au bout de plusieurs essais, Maud arrive à s'électrocuter pendant une minute sans scier. L'épreuve de l'électricité sera désormais au programme plusieurs fois par mois. Mais de toutes les épreuves, celle que la gamine redoute le plus, c'est l'épreuve de Raymond. Raymond, c'est le jardinier. Il est répugnant et régulièrement, il la coince dans un coin du garage ou de l'écurie et il lui dit « Si tu cries, je tuerai Linda, je tuerai ta chienne. » Alors elle le laisse faire. C'est cochonnerie. Et une fois, sa mère les surprend, mais elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et si vous pensez que je vous ai raconté assez d'horreurs, alors vous êtes loin du compte. Très loin du compte. Aujourd'hui, Maud a 9 ans. Et dans n'importe quelle famille normale, on aurait fêté son anniversaire. On aurait fait un gâteau avec des bougies, on lui aurait offert un cadeau. Mais ça, c'est pour les enfants perdus. C'est pas pour l'élu. Le jour de ses 9 ans, le père donne à sa fille un livre de mathématiques avec des problèmes complexes, des trains qui se croisent à différentes vitesses, des bassines qui se remplissent et qui fuient. Prière de les résoudre. Elle est perdue. Elle n'y arrive pas. Tant que tu n'y seras pas arrivée, tu n'auras ni à boire, ni à manger. Ça dure jusqu'à minuit. Et sa mère lui donne l'autorisation d'aller se coucher. Mais le lendemain, retour devant le livre de mathématiques. Et ainsi de suite, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le père finisse par reporter l'épreuve à l'année suivante, pour ses 10 ans. Ah, les épreuves, l'autre taré en invente tous les jours. En voici une encore, plus dingue que les autres. Depuis qu'elle a 7 ans, Maud a l'obligation de prendre l'apéritif et de boire du vin à table, parce qu'il faut se préparer à ces situations où il est vital de supporter l'alcool. Et maintenant qu'elle a 9 ans, elle doit boire de plus en plus d'alcool. Le salaud lui bourre la gueule. Il appelle cette épreuve « alcool et volonté ». Il lui fait boire de grandes rasades de Ricard, de whisky et de cognac. Et après, elle doit marcher le long d'une ligne droite, sans trébucher bien sûr. Parmi ces épreuves qui sont censées forcer son éducation, il y en a une aussi qui est quotidienne. Il appelle ça l'exercice d'impassibilité. Et ça, il y soumet et la mère et la fille. Toutes les deux doivent être capables de le fixer dans les yeux pendant 10, 20 minutes, sans que leur visage n'exprime quoi que ce soit. Et cette épreuve, elle peut tomber à n'importe quel moment de la journée. Et surtout, quand la petite est tentée de laisser passer sa colère et son irritation, il est primordial de savoir dissimuler ses émotions face au monde. Ses émotions. Heureusement qu'elle en a, des émotions, la petite Maud, au fond de son enfance gâchée. Et ses émotions, elle les trouve, figurez-vous, dans ses lectures. Au point qu'on peut dire que, sans ses lectures, elle n'aurait peut-être pas survécu. En tout cas, elle ne s'en serait peut-être pas sortie, parce qu'au point où on en est, je vous le dis, elle va s'en sortir. Et c'est la littérature qui va la sauver, cette petite fille. Dostoïevski, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Elle dévore tout ça avec passion. Et en cachette, bien sûr. Les personnages de ses romans deviennent ses amis imaginaires. Parce que des amis, elle n'en a jamais eu. Elle ne connaît que son père, sa mère et l'horrible jardinier. Alors les personnages, elle leur parle. Elle entretient avec eux des conversations dans sa tête. Et elle apprend surtout que sa propre vie est pire que tout ce qu'elle peut lire de pire dans ses romans. Elle acquiert ainsi une sorte de thermomètre de l'horreur humaine. Elle voit bien que dans l'horreur, elle est tout en haut. Et du coup, elle gagne un peu de recul sur les agissements de son père. Elle s'aperçoit que ce qu'elle subit n'est pas normal. Jusqu'ici, elle ne pouvait se comparer à rien, ni personne. Grâce au livre, elle sait que ce qui lui arrive depuis qu'elle est née est une abomination. Non, elle n'est pas cette déception vivante dont parle sa mère. Son père lui a imposé la lecture du Marquis de Sade pour la débarrasser de son côté nunuche. Et elle, ce qu'elle comprend en lisant le Marquis de Sade, c'est qu'elle n'est pas folle. Que ce sont eux qui sont fous. Alors elle commence, lentement, grâce au livre, à couper les ponts. Et sa peur, évidemment, son angoisse, c'est qu'il s'en aperçoive. Parce que depuis tout petit, il lui dit qu'il a des pouvoirs de pénétration psychique, qu'il voit tout, qu'il sait tout ce qu'elle a dans la tête, qu'il lit en elle comme dans un livre. Et sa mère la met souvent en garde. « Si tu mens, je le saurai aussitôt, parce que ton père sera mort. » Elle lui répète ça depuis qu'elle a 6 ans. Alors pourvu qu'il ne s'aperçoive pas qu'elle est en train de commencer à s'éloigner. Alors pourvu qu'il ne s'aperçoive pas qu'elle est en train de commencer à s'éloigner. Et c'est là qu'elle va mettre au point une technique bien à elle. L'absence de pensée. Elle apprend à ne penser à rien, à faire le vide intégral dans sa tête. Par exemple, quand elle va libérer sa chienne que son père enferme dans sa niche, quand elle fait ça sans l'autorisation paternelle, elle se répète sans cesse dans sa tête « absence de pensée, absence de pensée, absence de pensée ». Et s'il ne lui tombe pas dessus, s'il ne déboule pas, dès qu'elle a libéré la chienne, c'est qu'elle maîtrise sa technique. L'autre manière qu'elle a trouvé d'exister, c'est de prendre du pouvoir sur elle-même, c'est de se faire du mal. Elle se mord le bras jusqu'au sang. Et ça, c'est elle qui le décide. Et elle arrête quand elle veut. Maud a commencé le long chemin qui va l'amener un jour à quitter cet enfer. Et en attendant, il lui reste bien des épreuves à affronter. Aujourd'hui, Louis Didier, le père, a invité Raymond le jardinier à prendre l'apéritif. Et il voudrait que Maud vienne jouer un petit morceau d'accordéon. Il sait très bien que l'autre viole sa fille depuis toujours, mais c'est pas le sujet. Il voudrait quand même qu'elle leur joue un peu d'accordéon. Et ça, Maud, elle ne le veut pas. Elle ne le veut plus. Hors de question. Le père est très étonné. En général, on ne discute pas ses ordres. Alors il la menace et elle lui jette l'accordéon à la figure. 12 kilos dans ta gueule. Ça va lui coûter cher, très cher. Des coups de bâton, 2 heures de sommeil en moins toutes les nuits pendant un mois et 60 heures d'accordéon à faire en plus. Mais elle s'en fiche, elle ne jouera pas d'accordéon pour Raymond. C'est sa première rébellion. La première fois qu'elle ose publiquement s'opposer à son père. Elle a commencé à s'extraire des griffes de son emprise perverse. Et c'est loin d'être fini. À partir de ce moment-là, elle va multiplier les actes de rébellion. Quelques jours plus tard, elle ramasse des branches sur la pelouse avant de passer la tondeuse. Son père, qui la surveille, lui interdit de se redresser. « Reste courbé, ça te fait du bien, ça t'apprend la vie !» Mais elle, au bout d'un moment, elle a mal au dos. Alors elle ose se redresser. Quelques secondes, son père se met à la traiter de tous les noms. Alors elle attrape calmement un ver de terre qui se tortille dans l'herbe et elle le met dans la bouche et elle le mâche et elle l'avale en plantant son regard dans celui de son père. Et elle lui dit « Tu ne pourras jamais plus rien contre moi, tu ne pourras rien !» Maude a commencé sa mue. Et à partir de là, rien ne pourra plus l'arrêter. Elle est en train de s'envoler du nid, de s'extraire de l'emprise que son père exerce sur elle depuis qu'elle est née. Un jour, il l'envoie chercher un outil au garage. Et dans le garage, il y a Raymond, le jardinier, toujours prêt à fondre sur elle, comme il le fait depuis qu'elle est toute petite. Sauf que ça aussi, c'est fini. Ça aussi, elle ne le supporte plus. Alors au moment où il s'approche d'elle, elle lui plante un regard plein de haine. Et lui, il prend peur. Il ne l'a jamais vue comme ça. Il ne la touchera plus. Jamais. Le soir même, dans son lit, Maud pleure comme elle le fait rarement. Elle a engagé un combat douloureux pour s'extraire des griffes de son malade de père. Elle ne fera pas marche arrière. À partir de maintenant, elle ne peut plus compter que sur elle. Car elle a 15 ans maintenant. Et on ne peut plus l'enfermer dans la propriété. Il faut bien qu'elle passe son bac de français. Elle est en avance, bien sûr, avec tout ce qu'elle trime depuis des années. Et pour passer son bac, il lui faut une carte d'identité. Alors un matin, avec sa mère, les voilà parties toutes les deux pour la mairie. Et c'est un événement pour toutes les deux. Ça fait 9 ans qu'elles ne sont pas sorties du domaine. Alors elles ont du mal à se repérer. Elles vont même se perdre en rentrant. Et le jour de l'épreuve, Maud va toute seule au lycée. C'est la première fois de sa vie qu'elle se dirige seule dans la ville. Et au passage, elle réalise qu'elle est très grande. Vous vous rendez compte, elle n'avait jamais vu aucun enfant de son âge. Le problème, c'est que sa mère ne lui a appris qu'à faire des dissertations. Elle choisit la disserte. À l'oral, elle écope d'un poème de Baudelaire qu'elle connaît bien, Le Parfum. Au moment d'ouvrir l'enveloppe des résultats, ils sont déconcertants. À l'écrit, 2 sur 20. À l'oral, 16 sur 20. Alors elle demande sa copie et en marge, il y a écrit. C'est une très belle dissertation, mais de philosophie. Eh oui, normal, sa mère n'a appris que la philo, elle ne lui a enseigné que la philo. Quoi qu'il en soit. La déception de ses parents est immense. Sa mère est très en colère. La qualité de son enseignement est mise en cause. Mais peu importe ce qu'ils en pensent, ils sont en train de la perdre. C'est la musique qui va la sauver. Parce qu'à un moment donné, elle ne peut plus progresser sans professeur. Elle ne peut plus apprendre toute seule ou avec sa mère. Un professeur vient donc lui donner des cours. Un intrus fait son apparition dans le domaine. Il s'appelle Monsieur Molin. Et c'est un homme d'une extrême gentillesse qui lui fait faire d'énormes progrès. en piano et en accordéon. Et Monsieur Molin, il comprend vite ce qui se passe au domaine. Il entend les clics que fait l'interphone quand le père les espionne pendant le cours. Alors il va s'en servir pour la sauver. À chaque fois qu'il sait que le père est à l'écoute pendant une leçon, il fait mine de la rudoyer. « C'est incroyable! Tu ne travailles pas assez! Et si tu venais travailler dans mon atelier de musique à Dunkerque, là tu verrais ce que c'est que le travail et la discipline. » Bien sûr, ça ne va pas venir tout de suite, mais petit à petit, il va obtenir l'impensable. Que Maud se rende à Dunkerque 2 fois par semaine pour suivre ses cours de musique et pour apprendre au passage un nouvel instrument qu'elle adore, la contrebasse. À 16 ans, Maud peut enfin sortir toutes les semaines du domaine. Sauf qu'elle, un soir, elle se fait raccompagner de son cours de musique par un élève, Richard, très grand, très doux. Et une fois de plus, le père s'entend qu'il ne peut rien contre cette idylle. Tente de retourner la situation à cet avantage. « Eh bien, tu n'as qu'à épouser Richard pour sauver les apparences. Et après, dans 6 mois, tu divorces et tu reviens à la maison. » Banco ! Il ne sera pas là le jour de son mariage avec Richard et sa mère non plus. Mais ce mariage signe la fin de l'emprise de l'ogre sur la petite Maud. Elle ne reviendra pas. Elle va apprendre à vivre dans le monde. Avec les autres, elle va apprendre à jouer de la musique pour le plaisir et pas pour se sauver comme les musiciens d'Auschwitz. Dans le livre qu'elle a écrit en 2014, Maud ne nous raconte pas la suite. On sait juste que son père est mort, 3 ans plus tard, que sa mère est toujours vivante aujourd'hui, qu'elle a avec elle une relation distendue et compliquée. Et aujourd'hui, figurez-vous, Maud Julien, est psychothérapeute à Paris, spécialisée dans l'emprise mentale. Elle a eu 3 maris, elle a 3 enfants et 3 petits-enfants. Et c'est une très belle femme, allez voir sa photo sur Internet, épanouie, qui a donc écrit son histoire en 2014, un livre bouleversant, paru chez Stock, Derrière la grille, et j'espère vous avoir donné envie de le lire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.